Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Les audiences du pape constitueront l'essentiel de l'actualité de l'Église avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Mozambique, en Guinée et au Bénin notamment. L'actualité sociopolitique quant à elle nous conduira entre autres en Éthiopie, au Nigeria et au Cameroun. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous ces bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le pape a reçu lundi en audience privée tout d'abord un groupe de prisonniers de Rébibia, suivi de Monseigneur Janusz Urbanczy, représentant permanent auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Vienne, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Puis Monsieur Paul Oga Adikou, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, venu présenter ses lettres de créance. Ensuite, Mgr Ivan Jurkovic, nonce apostolique au Canada, suivi du cardinal Kevin Joseph Farrell, préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, avec le père Gianfranco Ghirlanda. Enfin, Madame Sally Jane Axworthy, ambassadeur de Grande-Bretagne. En Éthiopie, les évêques ont adressé samedi un message à l'occasion des élections générales du lundi 21 juin. L'Éthiopie veut des politiciens honnêtes qui soutiennent l'unité, la solidarité et le respect mutuel, c'est ce qu'affirme la conférence épiscopale dans cette note signée par son secrétaire général, le père Teshome Fikre Welde Tensae. Les élections générales sont en jeu, les électeurs seront appelés à choisir le 547 membres du Parlement fédéral et le chef du parti gagnant deviendra premier ministre. Un dirigeant vertueux, écrivent les évêques, s'efforce de faire en sorte que l'égalité, la justice et la paix règnent dans la communauté. Mais pour obtenir un tel leader, nous devons semer une bonne graine, une moralité juste dans nos enfants. D'où l'exhortation faite à tous les candidats de mettre en pratique les principes d'honnêteté, de travailler sur des questions qui améliorent l'unité entre les citoyens et de s'abstenir de promouvoir des éléments de division. L'administrateur apostolique du diocèse de Pemba au Mozambique, Mgr Antonio Julias Sandramo, a exhorté les groupes caritatifs et les autorités qui apportent leur aide aux personnes déplacées qui se sont installées dans la capitale provinciale à ne pas faire de discrimination à l'égard de la communauté locale. Dans un article publié mercredi 16 juin, Mgr Sandramo affirme que pour qu'il y ait une bonne relation entre les hôtes et les personnes accueillies, il faut qu'il y ait un lien entre eux, quelque chose qu'ils partagent en commun. Les interventions doivent intégrer des aspects de bonne coexistence entre les déplacés et la population locale. L'aide ne doit pas aller uniquement aux personnes déplacées en ignorant totalement la population locale, a déclaré Mgr Sandramo. Le 15 juin, après des années de fermeture, le centre de formation catéchétique Bienheureux Isidore Bakanja a finalement rouvert ses portes lors d'une cérémonie présidée par Mgr José Lampraka, administrateur apostolique du diocèse de Bissau en Guinée. Le père Lucio Bentregani, administrateur du diocèse de Bafata, supérieur de PIME en Guinée-Bissau, des religieux et religieuses et les familles qui participeront à la formation au cours de 3 prochaines années étaient présents. Inauguré le 28 juin 1997 par Mgr Settimio Arturo Ferrazzetta, premier évêque et primat de Guinée-Bissau, le centre de formation pour les familles catéchétiques du monde rural, portant le nom du centre de formation catéchétique du bienheureux Isidore Bakanja, situé dans les environs de Mansoa au nord de la Guinée-Bissau, à environ 45 km de la capitale Bissau, a été fermé en 2004 pour un moment d'évaluation du chemin parcouru. Sur la base de l'expérience de cette première année, il a été conclu que quelque chose devait être changé et que les bâtiments avaient besoin d'être rénovés. En République démocratique du Congo, les évêques participent à une session sur l'environnement et les ressources naturelles. Notre correspondant local nous en parle.
Le préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, le cardinal Peter Sturkson, a prononcé le lundi 21 juin au centre Caritas à Kinshasa la conférence inaugurale de la session organisée par la Conférence épiscopale nationale du Congo sur l'environnement et les ressources naturelles dans le contexte de la COVID-19. Le président de la Conférence épiscopale, Mgr Marcel Otembi, archevêque de Kisangani, a prononcé le mot d'ouverture de la session après que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, avait prononcé le mot de bienvenue et que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, avait prononcé un mot du gouvernement de la République. Le thème général de la session de 5 jours porte sur l'Église de la RDC face aux enjeux de l'environnement et des ressources naturelles pour la protection du bassin du Congo et de la maison commune. On entend bien en écho l'encyclique du pape François Laudato Si. Jusqu'au vendredi 25 juin, une 60aine de conférences viseront ainsi à renforcer les capacités des évêques afin de promouvoir un engagement effectif des églises locales sur des questions environnementales et des ressources naturelles. Le président de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, Mgr Sébastien Muyengo, évêque d'Uvira, prononcera alors le mot de remerciement. Jean-Baptiste Malengue Kalonzo pour Radio Vatican.
Endormi dans la résurrection du Seigneur le 17 mai dernier, dans sa 93e année, Mgr Bruno Kouamé, évêque émérite d'Abengourou et doyen d'âge de l'épiscopat ivoirien, a été inhumé vendredi 18 juin 2021 dans la cour de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le récit de ses obsèques dans ce reportage.
Celui qu'on appelle affectueusement dans le pays, Monseigneur Je ne mourrai pas, était un serviteur profondément ancré dans la foi, un pasteur vivant, mais également joyeux, serviable et disponible. Pour le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, on ne cessera jamais de lui rendre hommage. Monseigneur Boniface Ezire, son successeur sur le siège épiscopal d'Abengourou, lors de cette homélie, est également revenu sur les qualités et les vertus chrétiennes qu'incarnait Monseigneur Bruno Kouamé. Pour lui, la vie de Mgr Bruno Kouamé, parce qu'elle a manifesté l'amour, y compris dans ses moments de joie, d'épreuves et de maladies, nous invite à lever les yeux vers celui qui est la source et l'accomplissement de toute une vie. Notons que Mgr Bruno Kouamé, évêque émérite d'Abengourou, totalise à son actif 40 ans de ministère épiscopal et 65 ans de vie sacerdotale, faisant de lui le doyen du collège épiscopal de Côte d'Ivoire. Avec ce départ vers la maison du Père, l'église de Côte d'Ivoire compte désormais 17 évêques, dont 4 émérite et est un auxiliaire. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Prenons la direction du Bénin où l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Ungbeji, avait célébré en différé le dimanche 13 juin 2021 avec les filles et fils de la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Reportage.
L'archevêque de Cotonou au Bénin, Mgr Roger Ungbeji, a célébré en différé le dimanche 13 juin 2021 avec les filles et fils de la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Il était en compagnie de son homologue de Dassa Zoumé, Mgr François Nyonkosu, au cours de la messe d'action de grâce, consacrant aussi le 63e anniversaire de création de la dite paroisse. Revenant sur la méditation des textes de la liturgie de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, il a invité les participants à explorer plusieurs lieux où l'amour de Dieu ne cesse de nous interpeller, dont deux notamment.
Le premier lieu où chacun de nous peut faire des efforts constitue la croissance dans l'intimité avec le Christ. Le deuxième lieu constitue une vie de témoignage au Christ.
Et Mgr l'archevêque d'exhorter chacun des fidèles chrétiens à une évaluation de son attitude face au cœur qui a tant aimé les hommes.
Suis-je reconnaissant ou indifférent? Suis-je attentif ou froid face aux multiples bienfaits reçus de Dieu? En tant que chrétien, nous connaissons pourtant les chemins à emprunter pour croître dans l'intimité avec le Christ. Une vie esprit assidu de prière, une bonne pratique des sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation, la lecture régulière des Saintes Écritures et l'exercice de la charité. Sommes-nous prêts à reprendre ces chemins?
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les Éthiopiens étaient aux urnes lundi pour une élection repoussée par deux fois et scrutée à l'étranger sur fond de doute sur sa crédibilité et de famine dans la région en guerre du Tigré. Il s'agit du premier test électoral pour le premier ministre Abiy Ahmed, 44 ans, qui avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs. Au Niger, près de 6000 personnes qui avaient fui en 2015 des attaques djihadistes ont été reconduites à Baroua, leur localité d'origine, située dans la région des Diffa au sud-est du pays. C'est ce qu'ont indiqué lundi les autorités locales. C'est la toute première opération de retour de déplacés dans leur localité d'origine et qui concernera 18 autres villages. Il s'agit d'un retour volontaire et 1187 ménages, soit 5935 personnes, ont déjà regagné depuis dimanche Baroua, une localité située près de Bosso à proximité du lac Tchad, selon Yahya Godi, le secrétaire général du gouvernorat des Diffa, une région proche du nord-est du Nigeria. Au Nigeria, le porte-parole de la police Daniel Ondukwe a indiqué lundi qu'un inspecteur de police a ouvert le feu dimanche sur des habitants d'un quartier résidentiel à Enugu, une ville du sud-est du Nigeria, tuant 5 civils et en blessant 4 autres sans motif apparent. L'inspecteur de police a été arrêté et une enquête a été ouverte. Les motifs de cette attaque sont pour l'heure inconnus, précise le communiqué. Au Cameroun, le préfet du département du Ngoketunja, Ketong Anderson Kongé, a indiqué dimanche la mort de 3 gendarmes tués samedi dans le nord-est du pays par des séparatistes qui combattent l'armée et réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone. Cette attaque est intervenue au lendemain de la mort de 2 soldats et d'un fonctionnaire dans la région voisine du sud-ouest. 5 autres fonctionnaires ont été pris en otage et n'étaient toujours pas libérés dimanche, selon M. Kongé.
Radio Vatican, Français-Afrique, Donatien Niembo.
L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est inquiété dimanche de la violence qui s'est perpétue dans son pays et s'est manifesté jeudi, jour de son retour en Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence à la suite de son acquittement par la justice internationale après 10 ans de détention. Selon son porte-parole Justin Katinam Kone, M. Gbagbo, en remerciant la jeunesse ivoirienne qui s'est mobilisée pour l'accueillir, note qu'elle a dû payer parfois le prix lourd illustré par des blessures graves causées par une violence brutale que rien ne justifiait. Il appelle dans un souci d'apaisement à la libération de toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de son accueil et s'inquiète de la violence qui s'est perpétue dans son pays. Il appelle également à la retenue pour donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer pour que la paix s'installe définitivement dans le pays, a notamment indiqué le porte-parole Justin Katinan Kone. La coordination de mouvements d'Azawad, l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du Mali, a déploré dimanche des résultats non satisfaisants de l'accord de paix signé il y a 6 ans avec le gouvernement et en a imputé la responsabilité aux précédents dirigeants. La coordination de mouvements de l'Azawad Alliance, composée essentiellement d'anciens groupes armés indépendantistes Touareg et nationalistes arabes qui ont combattu les forces maliennes dans le Nord à partir de 2012, avait signé cet accord de paix en 2015 avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés loyales envers le pouvoir, la plateforme. Fatia Briki, une universitaire en retraite réputée pour son engagement en faveur de la défense des droits humains et contre la torture, est en détention depuis jeudi à Alger sans que soit connu le motif de son arrestation. L'information a été donnée dimanche par sa famille et le Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien aux détenus d'opinion dont elle fait partie. La garde à vue de Madame Priki a été prolongée, mais les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été divulgués. Je pense que c'est son travail en faveur des détenus qui est la cause de son arrestation, a déclaré Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Poursuivons notre programme avec le magazine sur la santé.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Dans le cadre de notre magazine sur la santé, nous recevons Monsieur Joyce Lwabeya Mutombo, qui est médecin stagiaire à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo en République démocratique du Congo. Avec lui, nous revenons sur la drépanocytose dont la journée internationale de lutte a été célébrée le samedi 19 juin dernier. Il commence par nous dire ce que l'on entend par drépanocytose.
Merci pour l'opportunité. Drépanocytose veut juste dire maladie du sang. Et qui dit maladie du sang concerne plus le globule rouge. Une partie du globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine. Donc on définit la drépanocytose dans des termes très scientifiques. On peut dire que c'est une hémoglobinopathie exclusivement noire. Mais dans des termes très simples, on pourrait juste dire que c'est une maladie qui touche les globules rouges de manière génétique, mais qui ne touche qu'une seule race, la race noire.
Merci beaucoup, docteur Lwabeya. Nous comprenons que c'est une maladie qui concerne vraiment l'Afrique, puisque nous nous adressons à des auditeurs africains. Mais comment savoir que l'on est atteint de la drépanocytose? En d'autres termes, quels en sont les symptômes?
Un drépanocytaire consulte en période de crise. Il peut y avoir trois crises. Il y a la crise d'hyperhémolyse, il y a la crise vaso-occlusive, ainsi que la crise infectieuse. Ce sont ces trois éléments qui poussent un drépanocytaire à venir consulter. La crise d'hyperhémolyse, ça veut dire que non, il fait des anémies à répétition. Les taux du sang diminuent. La crise vaso-occlusive, c'est il aura mal partout. Les douleurs osseuses, les douleurs thoraciques, les douleurs dans... Voilà, il peut même faire des AVC. Et la crise infectieuse, ça veut dire qu'il va commencer à venir au-delà de l'infection. Là, c'est en période de crise. Mais en absence de crise, on reconnaît une drépanocytose, la faciès drépanocytaire. Vous verrez comme ça, ce sont des êtres avec un retard de croissance qu'on appelle les retards staturopondérales. Vous verrez qu'ils ont une bosse sérosanguine, une bosse frontale, excusez-moi. Vous verrez les arcades dentaires sont proéminentes ainsi que au niveau de l'abdomen. L'abdomen est un peu ballonné, mais du côté gauche, parce qu'ils ont une grosse rate. Et puis les mains et les pieds sont un peu tuméfiés, qu'on appelle le hand-foot syndrome. Là, c'est en absence des crises. Donc, on les reconnaît par les faciès drépanocytaires, mais en période de crise, on les reconnaît par ces éléments que j'avais cités au début.
Mais alors, comment se fait la prise en charge d'un drépanocytaire?
La prise en charge d'un drépanocytaire dépend de la crise. Comme on a dit, un drépanocytaire, comme toute personne, vient à l'hôpital parce qu'il dérange. Quand nous venons à l'hôpital, c'était parce que nous avons fait fièvre, parce que nous n'avons pas dormi. Et un drépanocytaire, quand il vient à l'hôpital, pour le prendre en charge, il vient dans un tableau précis. On a dit que ça peut être une crise d'hyperhémolyse. Ça signifie qu'il fait des anémies à répétition. Le taux de globules rouges diminue. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transfuser. Un drépanocytaire peut venir avec des douleurs très, très, très sérieuses. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des antidouleurs, mais aussi faire une perfusion. Parce qu'il y a une crise vaso-occlusive, ça signifie que les globules rouges étaient formés et ça bouche, en fait, ça obstrue les veines, ce qui fait en sorte que le sang n'arrive pas à circuler convenablement. D'où avec une perfusion, on peut facilement l'aider. Et un drépanocytaire qui vient avec des crises infectieuses, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer la crise de l'infection en donnant des antibiotiques appropriés pour gérer ces problèmes. Donc, la prise en charge d'un drépanocytaire est une prise en charge d'abord symptomatique. Gérer la crise qui lui a poussé à venir consulter. Voilà, c'est un peu ça.
Docteur Lwabeya, vous avez dit que c'est lié aussi à la génétique, mais est-ce qu'on peut en guérir? Il semble qu'il soit possible de guérir la drépanocytose par la greffe de moelle osseuse. Pouvez-vous nous en dire plus?
La greffe de moelle osseuse, en fait, c'est le traitement curatif. Il faut remplacer la moelle osseuse par la greffe osseuse. Et c'est un traitement qui coûte très, très, très cher. Mais à part la greffe de la moelle osseuse, il y a aussi un autre traitement que les scientifiques ont pu proposer. C'est en fait la génie génétique. C'est aussi un traitement qui coûte extrêmement cher. Et pour s'en en procurer, comme ici dans le continent africain, et précisément ici en RDC, ça pose problème parce que l'Afrique a des sérieux problèmes financiers, des dettes, ça et là. Et ça pose problème vraiment non pour prendre en charge un drépanocytaire pour en fait en traiter.
En d'autres termes, l'accès n'est pas facile à ce traitement curatif, mais pouvez-vous nous dire justement le moyen, s'il en existe, des moyens pour prévenir la drépanocytose?
Le seul moyen pour prévenir la drépanocytose, c'est de se dépister. Faire l'examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine est différent du groupe sanguin. Je répète, l'électrophorèse de l'hémoglobine est totalement différent du groupe sanguin parce que d'autres personnes ont tendance à confondre. Parce qu'il a déjà un groupe sanguin, il ne peut plus faire l'électrophorèse. Or, c'est deux examens contraires. Et le seul moyen pour prévenir cette maladie, quand vous savez déjà que vous avez un gène létal ou un gène prédisposant, vous verrez que non, vous avez un gène S. Si vous êtes AS, il vous est impossible de rencontrer une femme ou un homme qui est du même groupe que vous, AS. Parce que vous aurez environ comme ça 25% d'avoir de AA, 50% d'avoir des AS, mais 25% d'avoir les SS.
Docteur Loabea, il y a de nombreux jeunes qui vous suivent. En Afrique particulièrement, oui. Quel message avez-vous pour ces jeunes qui vous suivent?
La drépanocytose, c'est une réalité. Nous en vivons au quotidien. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est une maladie qui peut être éradiquée sur la surface de la Terre. Et le seul élément qui nous permettrait en fait d'atteindre cet objectif, c'est de nous dépister. À vous, le jeune qui voudrait en fait vous marier plus tard, n'attendez pas la veille du mariage. Dès le commencement d'une relation, quand vous savez que non, vous êtes dans une relation, vous espérez aller plus loin, jeune, je vous encourage, dépistez-vous.
Docteur Joyce Loabea Mutombo, médecin stagiaire à l'hôpital général de référence de Kinshasa, au micro de Donatien Nyembo.
Média, c'est notre rubrique du jour. Marie-Josée Mwando, Boisboileau.
Commençons notre rubrique sur les médias par le Nigeria où une chaîne de télévision craint pour son avenir après la suspension de Twitter. La chaîne de rédaction News Central, lancée il y a 2 ans, ambitionne de devenir la plus grande chaîne panafricaine d'information en continu. Mais pour ces dizaines de journalistes, quasiment tous âgés de moins de 40 ans, le travail s'est compliqué depuis la décision du gouvernement de suspendre Twitter. Pour News Central, jeune média en pleine expansion mais qui a encore peu de visibilité, la décision du gouvernement de suspendre Twitter est catastrophique. Nous dépendons largement du trafic que nous ramènent nos tweets pour faire connaître notre chaîne YouTube et la chaîne sur bouquet satellite, explique Oladayo Martins, responsable du développement web. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, 75% des 210 millions d'habitants ont moins de 24 ans selon les Nations Unies. Une jeunesse aussi ultra connectée, environ 20% de la population, soit 40 millions de personnes, dit avoir un compte Twitter. 5 responsables du journal pro-démocratie de Hong Kong, Apple Daily, dont son rédacteur en chef Ryan Lo, ont été arrêtés la semaine dernière en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Les 5 dirigeants ont été arrêtés au cours d'une descente dans les locaux d'Apple Daily pour collusion avec un pays étranger ou avec des éléments externes visant à mettre en danger la sécurité nationale, a indiqué la police de Hong Kong dans un communiqué. Ces arrestations constituent la dernière opération policière en date visant le tabloïd qui a apporté un soutien sans faille au mouvement pro-démocratie. Il s'agit du second raid visant Apple Daily en moins d'un an. Le propriétaire du journal, Jimmy Lai, a été accusé de collusion après le raid mené en août dernier. Il est actuellement emprisonné en vertu de plusieurs condamnations pour avoir participé à certaines des manifestations pro-démocratie ayant agité Hong Kong il y a 2 ans. Par ailleurs, le quotidien Apple Daily a annoncé lundi à ses lecteurs que son conseil d'administration se prononcera le 25 juin sur une éventuelle fermeture du journal après le gel de ses actifs dans le cadre d'une loi sur la sécurité nationale. Cette mesure avait été ordonnée la semaine dernière quelques heures après une perquisition au sein de la rédaction du journal et l'arrestation de 5 de ses dirigeants. Le 17 juin, plus de 500 policiers ont effectué une descente dans les locaux du quotidien. Ils ont arrêté 5 de ses dirigeants en raison d'une série d'articles qui, selon la police, appelaient à des sanctions internationales. Un tribunal de Hong Kong a refusé samedi la libération sous caution des 2 d'entre eux. C'est la première fois que des opinions politiques publiées par un organe de presse de Hong Kong entraînent des poursuites en vertu de cette loi. La loi sur la sécurité nationale permet aux autorités hongkongaises de geler les avoirs d'une personne physique ou de toute société susceptible de menacer la sécurité nationale. 3 journalistes birmans qui étaient entrés en Thaïlande pour fuir le régime et risquaient d'être renvoyés dans leur pays ont obtenu l'asile dans un pays tiers. C'est ce qu'a déclaré récemment leur employeur. Ces journalistes qui travaillaient pour le site d'information Voix démocratique de Birmanie avaient été arrêtés en mai avec 2 activistes birmans dans la ville de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et accusés d'entrée illégale sur le territoire. La Birmanie est en proie à de troubles depuis que les militaires ont évincé la dirigeante Aung San Suu Kyi le 1er février, ce qui a déclenché un soulèvement de masse. De larges pans de la population étant descendue dans la rue. La junte a répondu par la force, tirant sur les manifestants, arrêtant des dissidents présumés lors des raids nocturnes, ciblant des journalistes et fermant des organes de presse. La Thaïlande avait fait savoir qu'elle cherchait une solution humanitaire afin d'éviter de renvoyer les journalistes en Birmanie où, selon leur employeur, leur vie était en danger.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Donatien Nyembo. Au revoir.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que...